auditeurs, bonjour à votre compagnie, Salsa Bertin pour une émission très printanière en ce mois de mai. Alors une émission un peu contrastée puisqu'il y aura un volet très culturel, on va se tourner entre la France et les États-Unis, nos meilleurs ennemis, vous savez, comme je dis toujours. Mais aussi on a aussi eu de belles histoires ensemble aussi, et ce que aujourd'hui on devrait plus souvent dire, c'est ce que les États-Unis nous doivent en fait. Voilà, ils sont comme encore des petits enfants, d'ailleurs ils sont pas tout à fait arrivés à l'âge de la maturité, on le voit tous les jours, et donc on va raconter cette grande histoire franco-états-unienne avec des gens qui sont en première loge, vous verrez. Et puis on va mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, avec les sujets qui me sont chers depuis toujours et qui font partie de mon métier, c'est-à-dire l'alimentation, la cuisine, l'agriculture. Et les nouvelles du front ne sont pas très bonnes. Donc je vais essayer aussi de vous montrer que l'union fait la force, que on peut avoir des solutions, qu'il y a des solutions viables et qu'il y a des gens qui font des belles choses malgré toutes les mauvaises nouvelles. Alors, près de moi, c'est-à-dire à travers l'écran, malheureusement seulement, deux invités. Il en a une que vous connaissez peut-être. Moi, je connais depuis longtemps parce que personne ne parlait d'elle et moi, je la suivais déjà sur les réseaux sociaux à travers les belles tables paysannes, en fait. C'est ça qui m'intéressait, de voir des jeunes agriculteurs. Et puis, peu à peu, elle a été médiatisée, peut-être un peu malgré elle, puisque le but, c'était... Souvent, quand on utilise les réseaux sociaux, c'est de faire marcher son entreprise, puisqu'elle est paysanne et restauratrice. Et puis, l'actualité la rattrape, parce que malheureusement, le combat parfois... on doit aller au combat malgré soi. Il y en a trop peu qui montent au front d'ailleurs. Et donc, comme elle est solidaire des autres paysans, eh bien, elle a été un petit peu plus mise en avant. C'est Kyria de la table de Gaïa. Bonjour Kyria.
Bonjour, de la table de Gaïa, des champs de Gaïa, effectivement.
Et les champs de Gaïa, ça c'est la ferme.
C'est ça, exactement. Donc la ferme, c'est les champs de Gaïa, et ensuite il y a la table de Gaïa.
Qui est un restaurant très nature. Enfin, vous allez nous raconter tout ça, parce qu'il faut nous faire rêver. Donc c'est du champ à l'assiette, en fait. Hein. Voilà. Donc. Et puis à côté, on va parler un peu plus d'économie, mais aussi des modèles viables et vivables. C'est ça, moi, qui m'a le plus intéressée. C'est Vincent Cros, qui est le cofondateur de Fèves, qui est un réseau de 4000 personnes qui ont mis au pot commun pour créer des fermes en agroécologie. Et ça, c'est un très, très joli modèle dont on va parler, puisque moi, je trouve, enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai découvert, qui donnait... beaucoup d'espoir et aussi parfois quelques idées pour ceux qui ne savent pas comment dépenser leur argent et où mettre leurs économies. Donc bonjour aussi Vincent Cros, et merci d'être là.
Voilà. Ouais, merci pour l'invitation.
Alors, est-ce que je vais vous demander à tous les deux peut-être de me donner un ou deux faits d'actualité qui les ont marqués dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, la table, pourquoi pas. Sachant que moi, j'ai mes petites idées, mais je vais faire attention à vous laisser la parole. Alors, allons-y peut-être. Allez, on va commencer. Comme on entend beaucoup Kyria sur les réseaux, on va faire l'inverse. On me dira pas que je n'ai pas de galanterie, puisque je suis une femme. Mais on va commencer par Vincent Cros.
L'actualité actuellement, c'est en tout cas moi ce dont je vois et j'entends parler, c'est encore un projet de loi autour de l'agriculture. Malheureusement, il y a des projets de loi qui s'enchaînent les uns après les autres sans apporter vraiment de solution aux agriculteurs et agricultrices, en particulier autour de la problématique de la rentabilité et puis de leur viabilité à long terme. Donc c'est un des sujets qui est actuel en tout cas et pas forcément très 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 positif à mon sens.
D'accord. Et dans cette loi, quel est le point pour que les gens comprennent de quelle loi, parce qu'il y a aussi les lois du Parlement européen. auquel moi j'aurais
Ouais,
jamais.
non, c'est plutôt une loi française, mais elle est en discussion et il y a des choses autour du foncier agricole, il y a des choses autour de la réglementation et des produits utilisables ou pas. Il y a pas mal de choses. En fait, il y a énormément de choses qui sont discutées actuellement dans cette loi. Et je ne sais pas ce qu'il en sortira. Il y avait l'année dernière l'objectif de faire une grande loi agricole qui finalement a fait un peu peau de chagrin. Il n'y avait pas plus grand-chose à la fin.
Ouais.
Parce que du mal à trouver consensus, à mon avis, entre les différents bords politiques.
Ça, c'est la France. On a du mal à faire consensus. Y a plus d'unité. Les gens n'arrivent pas à se donner la main. Ça, c'est vrai. En revanche, je crois que la refonte, les lois, etc., en France, de toute façon, ne sont seront de toute façon réduite à peau de chagrin, puisque on le sait, c'est le Parlement européen aujourd'hui qui décide. C'est eux qui ont, par exemple, pour moi, le plus important, c'est le Mercosur, qui a été signé. Et c'est toujours ce regard outre-Atlantique. Et le premier effet du Mercosur, vous avez vu l'actualité, ça, je pense que ça n'a pas échappé à Kyria, ça, j'en suis certaine.
Mais justement, moi,
C'est
c'est de
que
ça que je voulais parler,
le premier
effectivement.
arrivage, c'est les poulets. Donc, je vais vous laisser en parler, la catastrophe. Donc, moi, du coup, je vais aller sur autre chose. Je vais quand même aller sur l'autre sujet qui sont les OGM, qui est un véritable combat. La France a donc voté pour déréguler cela. Elle nous parle de souveraineté alimentaire et en même temps, elle vote pour être dérégulée, donc on n'appellera plus les OGM, donc vas-y, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et on appelle ça NGT, c'est en fait les OGM, mais en pire, voilà, avec un brevetage total du vivant. Et donc là où on parle de souveraineté alimentaire, il faut savoir qu'avec le gouvernement actuel, vous pouvez toujours inverser le terme. Hein, c'est, vous savez, le mal c'est le bien c'est le mal, c'est toujours cette inversion des termes. Donc vous savez qu'il est question d'abattre complètement toute forme de souveraineté, puisque ça va être breveté aux États-Unis avec des semences non reproductibles, brevetées qui vont nous arriver directement ici. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, ça peut contaminer le vivant, alors que nous, on a quand même des entreprises bien assises qui gèrent les semences en France. Et là, maintenant, ce sont les USA qui seront propriétaires des brevets. Donc, on fait d'une pierre deux coups, enfin, en tout cas, nos meilleurs ennemis font d'une pierre deux coups. À la fois, ils nous mettent en esclavage du point de vue alimentaire, ils nous empoisonne puisqu'on ne sait absolument pas comment ça peut contaminer les fermes bio, etc. Bon, sachant qu'il y a des vraies attaques contre le bio actuellement, hein, on n'aurait jamais pu penser ça il y a encore quelques années. Et voilà. Et donc ça, c'est organisé. L'Union européenne, pour mieux nous embrouiller, a aussi adopté la fin de l'étiquetage obligatoire, donc vous ne saurez pas ce que vous mangez. Voilà. Kyria?
Oui, moi, par rapport à l'actualité, j'avais justement envie de parler du Mercosur qui est passé sans l'accord des pays, hein, parce qu'en fait, ça a été autorisé donc d'être appliqué, mais ça n'a pas été en fait adopté par les pays. Donc c'est encore pire que ce qu'on pourrait penser en termes de démocratie, si on peut encore dire qu'on est en démocratie. Sauf que là, effectivement, le premier arrivage qui est arrivé de Grèce, il me semble, il y a 80% des poulets qui avaient été contaminés par la salmonelle. Alors c'est assez drôle si la situation pouvait être comique, parce que moi j'ai déjà eu des agriculteurs au téléphone, des éleveurs de poulets au téléphone en pleurs en me disant que ils avaient trouvé dans leur propriété une trace de salmonelle, où d'ailleurs en plus les tests après avaient été négatifs, mais qui du coup avaient dû abattre tous leurs poulets.
Ah oui,
Donc en fait,
c'est
ils ont
la réaction.
absolument tout perdu derrière pour une trace éventuelle de
Une trace
salmonelle.
éventuelle,
Et
oui.
par contre, derrière, on ramène des poulets qui viennent de l'autre bout du monde et qui là sont contaminés à 80% de salmonelle. Donc effectivement, au niveau des normes sanitaires, moi j'ai envie de parler de ça, j'avais envie de parler de ça quand tu as posé la question, parce qu'en fait, c'est vraiment ce deux poids deux mesures des normes sanitaires aujourd'hui en France, qui n'est plus acceptable, que ce soit en fait autant pour le consommateur que pour le paysan. Parce que nous, on nous assaillit de normes quand derrière, on nous apporte du poison. Et quand je dis ça, c'est pas pour que nos normes soient les mêmes qu'à côté, mais plutôt qu'en fait, on ait des ingrédients qui viennent chez nous, qui respectent nos normes à nous de continuer à manger, à offrir de la nourriture saine à nos clients et à nos consommateurs, en fait. Et aujourd'hui, tu parlais de souveraineté alimentaire, effectivement, on est à se demander quel est vraiment le but derrière tout ça, parce que aujourd'hui, clairement, il n'y a plus de souveraineté alimentaire française. En 10 ans, on a perdu 100 000, pardon, de nos agriculteurs. En 2030, il y a 50% des éleveurs qui partiront à la retraite. Là, clairement, on commence à devenir ultra, ultra minoritaire et on ne va pas pouvoir continuer à nourrir la population comme ça, surtout quand les étalages de nourriture arrivent et des cargos entiers arrivent et que nous, en fait, on va être écrasés autant par les normes que par les prix et par ces normes sanitaires qui n'ont absolument rien d'ailleurs de sanitaire, parce que quand on voit d'ailleurs ce qui nous amène et qui, ça, pour le coup, est autorisé, il n'y a rien de sanitaire là-dedans.
Ben, c'est-à-dire que la question est de savoir s'ils veulent que l'on continue à se nourrir de manière libre et autonome en France. Et je pense que la réponse, poser la question, c'est y répondre. Voilà. Donc, pour la question de la souveraineté alimentaire, moi, j'avais posé la question directement au ministre qui précédait Annick Genevard. Mais enfin, ce sont des clones. Hein, je lui avais demandé si. Enfin, je lui avais fait remarquer qu'il pratiquait plus ou moins l'oxymore tout de même. Et donc, quand il parlait de souveraineté alimentaire, donc j'avais rebondi sur des tas de sujets qu'il avait abordés. Et il m'a dit, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je vais tout de même y répondre. Et voilà, et c'est toujours comme ça. Donc là, on n'est effectivement pas du tout dans ce processus de souveraineté, bien au contraire, et vous le voyez sur tous les plans. Néanmoins, il y a une question de santé publique, puisque l'on sait que évidemment les aliments, la manière dont sont produits les aliments, ben, vont directement influer sur la santé des gens. Donc ça va pas forcément durer. Et puis pourquoi importer des produits que l'on peut faire ici, qui donnent du travail aux gens et en plus qui, puisqu'on parle de polluer toujours la planète, le transport est une très 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 grosse pollution.
Ah mais
Donc pourquoi
complètement,
faire
il y a
traverser la
absolument.
planète à ceux-là, alors qu'on fait traverser à la planète des produits qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas produire ici. Et donc, c'est tout à fait charmant d'avoir des bananes, des papayes, des goyaves, etc. Très bien. Mais pourquoi faire traverser ce qui est la nourriture de base fondamentale et que l'on peut produire ici? Vous voyez, donc c'est ça l'aberration. Alors, moi, je voudrais, pour que les auditeurs comprennent, comment vous êtes tombé-vous dans l'agriculture, chacun, puisque, par exemple, Kyria Gay n'est pas issue du monde agricole. Et puis, Vincent Crosse, vous avez carrément pris l'économie en main, mais en choisissant, évidemment, des fermes vertueuses qui sont l'agroécologie. D'abord Kyria, et puis après Vincent, vous allez nous raconter comment vous avez, enfin, pourquoi vous avez décidé de vous engager dans cette voie agricole.
Ben, nous, tout simplement, avec Manu, il y a 10 ans, ben même du coup il y a 12 ans, on s'est posé et on s'est dit, mais comment on peut faire pour changer ce monde? Parce que ça faisait déjà longtemps qu'on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait mal, qui tournait pas du tout et qu'il y avait quelque chose de très incohérent, justement. Et tu en parlais aussi, hein, il n'y a aucune cohérence. Il nous parle de souveraineté alimentaire et en fait, derrière, il nous envoie. Enfin bon, il n'y a rien qui est cohérent. Et donc, on s'est dit, ben, quel est le premier maillon de la chaîne? Quelle est la chose la plus importante que les gens ont et que les gens doivent utiliser tous les jours? Et donc, rapidement, on s'est rendu compte que c'était la nourriture. Et même au début, quand on s'est installé, toujours dans cette idée du premier maillon de la chaîne, en fait, on s'est dit que c'était même la semence et la graine qui étaient le tout premier palier de l'agriculture. Et donc, on était producteurs de semences. Quand on a commencé en tant que producteurs de semences. Et donc, c'est vraiment cette idée-là de montrer au monde qu'une agriculture responsable, vertueuse, respectueuse de l'humain et respectueuse de la nature et des animaux, et en fait, être dans ce cercle vertueux, qui nous a fait aller vers cette ferme. Alors, je dis pas que ça a été simple, mais en tout cas, aujourd'hui, on y est. Les choses de la vie ont fait que On a dû valoriser chacune de nos productions parce que financièrement, ben Vincent va mieux en parler que moi au niveau économique. C'est quand même très délicat aujourd'hui de vivre de l'agriculture et on s'en est vite rendu compte quand on s'est installé. Surtout qu'on n'avait pas un euro en poche, donc on a tout acheté à crédit. Donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'en vendant 3 graines, on n'allait pas rembourser notre crédit. Et donc, du coup, on a décidé d'aller au bout de la valorisation et de faire un restaurant fermier pour en fait rester dans notre idée de montrer une ferme comme celle de nos aïeux avec plein de petites productions. Et pas rentrer dans le moule de la monoproduction
Voilà, voilà.
et de ce qu'en fait aujourd'hui l'agriculture française a envie de nous amener quoi et où on n'a pas envie d'aller. Donc c'est vraiment une ferme familiale on est sur 30 hectares mais sur 15 hectares vraiment en culture ou en élevage, fait en SAU, ça s'appelle surface agricole utile. Et donc, du coup, avec ces 15 hectares, aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on fait vivre 5 familles, on se fait vivre nous et on accueille plus de 200 personnes par semaine. Et avec, en fait, on cuisine avec 80% de nos ingrédients se trouvent dans nos assiettes. Donc, c'est vraiment une très belle victoire. Et surtout, on montre aujourd'hui que oui, une agriculture est possible et en fait il faut pas lâcher d'ailleurs notre agriculture, notre paysannerie française ainsi que notre gastronomie française parce que ce sont quand même nos deux piliers aujourd'hui en France. Si on lâche ça, mais c'est fini en fait. Il va y avoir quoi? Tu le disais aussi au niveau des NGT, là ils sont en train vraiment d'attaquer absolument tout. Les maraîchers sont attaqués, les éleveurs sont attaqués. Quand je parle d'élevage, c'est vraiment tous les élevages, que ce soit poulet,
Oui.
lapin, bœuf, cochon, enfin tout le monde. Et nous en plus, on le sait vu qu'on fait plein de micro-productions. On fait fruits, légumes, viande, œufs, miel. En viande, on est sur du porc, sur du bœuf, sur du poulet, sur de l'oie fermière
Ah, vous
et
avez tout
sur du
ça à la
lapin.
ferme. Bah, dis donc,
Ouais, tout à
incroyable.
fait. Donc du coup, on sait, on peut parler aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on est dessus et on peut parler de chacune de ces productions-là et on sait ce que ça coûte, que ce soit financièrement, administrativement, les normes aussi, fait tout ce qui essaye de nous tuer, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'une perversité affolante parce que on essaye de tuer les agriculteurs, mais de manière sournoise, que ce soit à coup de papier, que ce soit à coup de normes, que ce soit à coup de difficultés, que ce soit... Voilà, c'est toujours les mêmes qui vont être aidés,
Pas
ça va être toujours le même
que
type
les agriculteurs,
d'agriculteur.
hein. Tous les entrepreneurs, les petites, les
Totalement, mais
entreprises
totalement.
et les artisans, voilà, les
Ça,
artisans.
c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Après, moi, c'est vrai que, bon, ben,
Voilà, vraiment.
je peux pas soutenir tout, malheureusement,
Non,
j'aimerais, mais je suis qu'une humaine
non, mais il faut être conscient.
et ça, au moins,
Il faut
c'est
être
quelque chose que
conscient
je
que le
connais.
harcèlement, il est sur tous les fronts
Totalement,
de
totalement.
l'indépendant. Mais en fait, il faudrait peut-être lancer un message à ceux qui travaillent dans l'administration, qui sont des gratte-papiers. Moi, j'ai déjà vu le ministère de l'Agriculture. C'est assez effrayant parce que toute la journée, ce sont des gens qui sont assis sur leur chaise. Ce sont des gens. D'abord, on ne devrait pas travailler pour l'agriculture du côté gouvernemental, si on n'a pas produit, qu'on n'a pas travaillé au moins 5 ans dans une ferme ou qu'on a fait de la production agricole, ça n'est pas possible. Parce qu'on produit des normes, on embête des gens, on vient avec des quads parfois vérifier. Contrôlé dans des vignes où on passe la charrue, mais il y a des dingueries comme ça, moi, que les gens, ça fait 25 ans que je parle aux producteurs et aux éleveurs, il y a des choses tellement irrespectueuses de la part de l'administration qui recrute en fait n'importe qui aussi pour faire ce métier. Leur seul acte de bravoure, c'est de prendre le métro le matin, ou parfois, au mieux, c'est d'enfourcher leur vélo de bobo. Et donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément malveillants. Moi, je connais des très gentils qui travaillent au ministère de l'agriculture, hein, des gens, ils sont très gentils, mais ils sont chantis, quoi, voilà. Et c'est pas suffisant d'être chantis, parce que ils ont en face d'eux des vrais travailleurs, hein, les forçats de la terre, si je puis dire. C'est un métier, c'est sans arrêt, en fait, pour l'agriculture, l'élevage, etc. Ce sont des métiers difficiles, des métiers d'excellence, mais en plus, on vous demande aussi d'être des administratifs, donc c'est des gens qui n'ont pas conscience. Et puis après, vous avez les malveillants. Mais alors, c'est ça, et là, moi, j'arrête ma phrase et je vous laisse parler, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience que demain, toutes les petites entreprises, tous les artisans, tous les paysans qui passent leur temps à harceler, qui se suicident, qui mettent la clé sous la porte, la génération qui ne se renouvelle pas, bah quand ils seront plus là, il n'y aura plus personne pour les payer. Ils seront devenus des inutiles parce qu'en fait, ils sont inutiles, c'est des gens qui ne produisent pas. Voilà. On a besoin de quelques personnes aux impôts, quelques personnes au ministère de l'Agriculture. On n'a pas besoin de tout ce monde en réalité. Donc, il justifie. Bon, donc ce harcèlement, ben, ça va mener tout le monde à la catastrophe. Et eux les premiers. Parce que là, c'est des centaines de milliers d'entreprises qui mettent la clé sous la porte. Réellement, parce que moi, je les rencontre. Donc voilà, ça c'est quand même très important de le dire. Donc merci d'avoir mis le doigt là-dessus, Kyria. Et maintenant, je vais laisser la parole à Vincent, puisque moi, ce que j'aime, c'est que là, on nous tire vers le monde économique et que malgré tout, il faut pas se leurrer. Et ben, il faut quand même avoir un peu les reins solides pour durer dans ce monde d'abord capitaliste et puis surtout libéral, hein. Il y a un échec du libéralisme, il y a un livre qui vient de sortir là-dessus d'ailleurs. On est dans l'échec du libéralisme et c'est pour ça qu'on est en train de couler. Après, on va remonter, bien évidemment. Donc moi, ça m'intéresse de connaître votre modèle. Comment vous êtes entré dans le monde agricole et comment vous avez eu cette idée et comment ça fonctionne? Elle, c'est le réseau Fève. Fève.
Alors, tout à fait. Alors, moi, j'avais monté une autre entreprise dans le passé. Je suis ingénieur de formation et j'avais monté une entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées, donc un secteur qui n'a rien à voir. Et quand j'ai cédé cette entreprise, j'avais envie de redémarrer une activité qui a un impact sur l'environnement, parce que j'ai eu une grosse prise de conscience il y a une dizaine d'années, un petit peu comme Kyria, je pense. Et l'envie de contribuer à ma manière. Et moi, ma manière, je suis un entrepreneur et donc je me sentais en mesure de pouvoir démarrer une activité qui puisse avoir un impact positif sur l'environnement. Et assez vite, je me suis intéressé à l'agriculture parce que bah justement, je me suis rendu compte de tous les enjeux auxquels font face l'agriculture, à la fois d'un point de vue environnemental, social et économique. Parce que l'agriculture, c'est un peu au centre de tous ces enjeux-là. On parle de gaz à effet de serre, on parle de biodiversité, d'impact sur l'eau, que ce soit l'usage et la quantité d'eau qu'on utilise, mais aussi la pollution des eaux qu'on peut retrouver dans les nappes phréatiques. D'un point de vue social, il y a un gros sujet de renouvellement des générations avec des agriculteurs qui sont bientôt en âge de partir à la retraite, et puis pas assez de gens qui veulent les remplacer, principalement parce que le métier d'agriculteur, bien qu'il soit ce soit un métier magnifique, il n'est pas assez rémunérateur et donc il y a beaucoup de gens qui ont très peur de se lancer là-dedans et puis il est très risqué et puis difficile et donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer. Et donc, je me suis intéressé à ces sujets-là et avec mes deux associés qui ont des profils assez proches du mien mais qui sont eux ingénieurs agronomes donc qui connaissaient un petit peu mieux l'agriculture que moi parce que c'est vrai que moi je ne le connaissais pas très bien au départ. On a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire ensemble pour essayer finalement de répondre à ces deux enjeux. Qui nous touchait le plus, qui sont la transition agroécologique et le renouvellement des générations. Et finalement, pour répondre à ces deux enjeux, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à s'installer pour justement remplacer ces personnes qui partent à la retraite, mais qui sont aujourd'hui beaucoup moins des enfants d'agriculteurs comme c'était dans le passé. Aujourd'hui, à peu près 2/3 des personnes qui cherchent à s'installer, c'est des gens qu'on appelle hors cadre familial, un peu comme Kyria, qui n'ont pas des parents agriculteurs et qui vont pas hériter des terres de leurs parents et qui, pour lesquels l'accès et le financement du foncier sont un des principaux freins à leur installation. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une foncière qui a un fonctionnement hyper simple. La foncière, elle achète des fermes, donc principalement des terres et éventuellement un peu de bâtiments, et elle va les mettre à disposition de personnes qui ont des projets en agroécologie et qui veulent s'installer sous forme de location longue durée. En leur donnant la possibilité de devenir propriétaire à terme via une option d'achat qu'on leur donne et qui est vraiment à leur main. Et donc on fait ça depuis 5 ans. Et l'idée qu'on a eue pour financer ces fermes-là, parce que ces fermes-là, elles coûtent cher, hein, si je prends la ferme moyenne, c'est 70 hectares en France. Donc c'est une moyenne, hein, il y a des fermes de 1 hectare et d'autres de 1 000, mais on va dire que cette moyenne, elle est quand même un peu représentative de ce que ça peut être une ferme moyenne, en tout cas de l'ordre de grandeur. Et donc 70 hectares, l'hectare moyen en France, il coûte 6 000 euros. Donc si vous prenez 70 hectares, 6 000, c'est même 6 500 euros, ça fait 450 000 euros et on a juste des terres. On n'a pas les bâtiments, on n'a pas l'équipement, le matériel, le cheptel s'il y a de l'élevage. Donc en fait, assez vite, on arrive sur des sommes quand on veut s'installer qui sont de plusieurs centaines de milliers, qui approchent souvent le million d'euros, voire qui dépassent le million d'euros selon les activités. Et pour une personne qui n'a pas un apport conséquent, bah, les banques vont avoir du mal à suivre. Et donc c'est pour ça qu'on a, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sort le foncier de l'équation financière. Ça permet au moins d'enlever une grosse partie du financement d'une personne qui cherche à s'installer. On lui met en location avec option d'achat. Et derrière, cette personne qui veut s'installer va quand même avoir un prêt, souvent, pour financer ce qui est matériel, équipement, éventuellement cheptel. Mais ça reste des montants qui sont beaucoup moins importants que s'ils avaient la totalité à financer. Et donc, pour financer tout ça, on va chercher de l'argent auprès de citoyens. Et donc, c'est des particuliers qui investissent dans la foncière, des sommes allant de 500 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines personnes. Et c'est grâce à cet argent qui est mis dans une sorte de pot commun qu'on peut financer différents projets et qu'on a financé donc depuis 5 ans. Aujourd'hui, on est à 60 fermes, 86, je crois, agriculteurs et agricultrices sur ces 60 fermes, un petit peu partout sur le territoire. Et comme je le disais au départ, notre objectif, c'est aussi de permettre cette transition. On va financer que des projets qui sont très engagés dans ces dimensions agroécologiques. Et en particulier, Kyria a parlé du bio tout à l'heure, ou je sais plus, mais je crois qu'on parlait du bio tout à l'heure.
On en
Et
a
donc,
parlé, oui.
on finance des projets qui sont dans cette démarche en agriculture biologique.
Ouais, c'est merveilleux. Donc on peut se mettre à plusieurs aussi. Par exemple, on n'a pas envie de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et faire comme certains éleveurs qui finalement travaillent tout, hein. Ils sont en autonomie. Moi, j'en ai rencontré plusieurs dans toute la France. Et qui vivent mieux que leurs parents. En fait, ils ont cassé le modèle des parents pour reprendre les fermes, et souvent ils la reprennent à deux ou trois d'une même famille, d'une autre famille, ils partagent, et ils ont une vie beaucoup plus agréable et ils vivent mieux. Alors, on devient jamais très riche si on fait pas de la ferme industrielle façon états-unienne, mais en tout cas, ils vivent quand même beaucoup beaucoup mieux. Est-ce que c'est possible aussi de faire appel à FEP pour un projet comme celui-là?
Alors oui, nous, on finance des projets de différents types de personnes. Donc, on a des personnes qui sont seules, on a des personnes qui sont en couple et on a des collectifs de 2,
D'accord.
3, 4 personnes. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le projet, il est conforme d'un point de vue agroécologique à ce qu'on a envie de financer? Est-ce que finalement, les investisseurs qui sont des particuliers ont envie de financer aussi au travers de nous?
Oui.
Deuxièmement, est-ce que le projet, il est viable sur le papier d'un point de vue économique? Et donc ça, on va regarder un petit peu le business plan, un peu comme pourrait le faire une banque finalement. On va regarder le business plan, on va regarder si tout ça nous semble cohérent.
En
Et
fait, vous
puis.
aidez les gens parce que le business plan, souvent, c'est ce qui manque, hein. Dans le monde paysan, je dirais, et agricole, souvent, bon, le business plan, c'est pas le point fort. Et je pense que c'est quand même la base. Et c'est peut-être bien d'avoir des gens comme vous, justement, qui peuvent aider dans le business plan pour pas aller droit dans le mur au plan.
Oui, alors on va. Nous, notre rôle, c'est quand même pas de les prendre à partir de zéro et de leur faire tout leur
Non.
BP.
Pas zéro, non, évidemment, il faut avoir un
En
projet, mais
effet, on va les aider, on va les challenger. Et pour revenir à ce que disait Kyria tout à l'heure, nous, un des gros critères aussi qu'on regarde, c'est est-ce que le projet est résilient et diversifié? C'est un des piliers en fait de ce qu'on considère être là une bonne transition, c'est d'aller vers des fermes qui sont plus résilientes. Vis-à-vis des aléas climatiques, des aléas de marché. Et donc, le fait d'avoir plusieurs productions, éventuellement de la transformation et des choses qui apportent plus de valeur ajoutée à la ferme. Alors, ça peut aller jusqu'au restaurant. Là, on est vraiment au max du max de comment on a transformé parce qu'on est du champ à l'assiette. Donc, c'est génial. Mais après, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Mais déjà, faire un peu plus
non,
de
on n'est pas
transformation, de
capable.
diversification, etc., ça permet d'apporter. Un peu plus de résilience et c'est souvent des projets qui marchent mieux sur le long terme que des projets très autocentrés sur un type de production qui peuvent très bien marcher pendant 2, 3 ans mais qui peuvent après être plus difficiles à gérer sur le long terme.
Alors, j'ai vu une ferme en coopérative en région parisienne qui est sur un ancien site militaire, a fait plusieurs centaines d'hectares.
Ferme de
Je crois qu'il
l'Envol.
se... Comment?
C'est la ferme de l'Envol.
Ouais, la ferme de l'Envol. Il est extraordinaire, ce modèle. Il y a 5 personnes dessus et c'est en agroécologie aussi. Et ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que on reprenait finalement des terres qui sont pas agricoles pour retransformer en terres agricoles là où des salopards, excusez-moi, parce que vraiment je suis outrée par le fait qu'on puisse prendre des bonnes terres en région, en Île-de-France, arables et des très bonnes terres pour faire des projets de bétonisation ridicules souvent. Pour faire une prison, ça j'avais invité le maire pour faire des hangars, des je sais pas quoi, enfin des trucs, alors qu'il y a des tas de friches qu'on pourrait utiliser pour... Et là, vraiment, quel tour de force, quoi. Voilà un autre bel exemple en coopérative.
Et pour le coup, c'est un bel exemple qui a été aussi poussé par le territoire,
Oui, oui.
le département et les collectivités qui sont autour donc le département, c'est l'Essonne, je crois, sont assez moteurs sur le projet. et ont beaucoup aidé à la mise en place de ce projet qui a été porté par l'asso Ferme d'Avenir et puis d'autres intervenants
Ouais.
de la région.
Alors justement, je vais faire une petite transition pour venir à Kyria sur l'aspect de solidarité, parce que je crois que ce qui le mal français, c'est d'avoir laissé la République diviser les gens. C'est-à-dire que depuis plusieurs dizaines d'années, chaque parti politique et chaque tendance de la République, chacune à sa manière, a fait son petit travail de division. Alors, mais c'est sur tous les sujets. Donc aujourd'hui, la France est divisée. On a tout organisé pour que les gens, ne puissent pas se tendre la main et donc ne puissent pas lutter contre ce qui n'est pas juste. Par exemple, trop de tracasseries administratives, c'est pas juste. Trop d'impôts, c'est pas juste. Bien sûr qu'il faut de l'impôt. Moi, je suis pour l'impôt dans le sens où la France avait un joli modèle solidaire. Mais là, on atteint des sommets. Là, l'Europe va avoir 1 000 milliards de dettes. L'Europe qui aujourd'hui décide tout, 1 000 milliards de dettes. Il faut sortir, pour être très très poli, de ce merdier. Voilà. Parce que là, on est en train de couler avec le navire. On ne sait pas l'argent d'ailleurs où part cet argent. Donc nous, on va devoir être contributeurs encore plus. Donc en fait, on travaille beaucoup, mais on est tout le temps à perte avec des gens qui décident pour tout le monde et qui perdent de l'argent. Tout ce que touche l'Europe, elle le pourrit. Donc ça fait un trou dans la coque à chaque fois. Et le bateau va finir par couler. De toute façon, il va couler. Mais enfin, on aimerait bien pas tout ce que toute la France coule en même temps. Donc la solidarité, c'est quand même de pouvoir faire des choses ensemble, de se réunir ensemble pour qu'il y ait quand même des îlots qui coulent pas complètement et pour le bien de tous, y compris le bien de ceux qui nous gouvernent, hein, parce qu'ils mangent tous les jours. Et ils n'ont pas forcément envie que tous leurs enfants aient des cancers à l'âge de 5 ans, parce que là, les cancers infantiles, c'est un truc de... C'est fou, quoi. Donc, la solidarité, ça peut être d'aller mettre de l'argent chez vous, d'aller mettre de l'argent de façon plus modeste aussi. Je sais qu'il y a une autre entreprise, on peut financer des vaches. Donc, il y avait parraine ton arbre, parraine ta ruche, mais parraine ta vache. Donc, on met 2 000 euros et en plus, on est assuré. Si la vache meurt, on est assuré. Donc, c'est pas mal puisque les gens retirent leur argent des comptes des livrets A. Ça, vous en reparlerez tout à l'heure. Et ils se disent, mais comment, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Et moi, je trouve que le mettre dans l'agriculture et l'élevage, c'est pas mal. Et donc, Kyria, vous êtes solidaire à votre manière. Alors, on vous a vu un peu la passionnariat de l'Ariège sur tous les fronts. Et aller entourer vos amis éleveurs qui ont quand même beaucoup souffert avec cette histoire de DNC, qui est une petite maladie. Moi, j'ai étudié, j'ai participé, j'ai écouté la conférence de presse des vétérinaires. Tout ça, c'est bon. Enfin, tout ça, c'est très très exagéré. C'est une maladie qui se soigne, hein, comme beaucoup de. C'est une petite maladie qui se soigne très bien. Donc là, on en fait des caisses.
Existe depuis plus de 100 ans
Ouais,
ici.
depuis, voilà, les autres pays, c'est un peu comme le Covid, ils n'ont pas du tout traité ça comme nous, ils abattent pas les cheptels, ils vont, enfin, tout ça, bon, c'est comme d'habitude. Donc vous êtes, alors que vous n'étiez pas forcément concerné, moi j'ai trouvé que c'était beau de vous voir monter au front, de prendre des risques, ce que vous avez fait, pour aller vers les agriculteurs. Mais en fait, ça fait longtemps. Parce qu'on a dit Kyria, elle a une. Alors vous avez même bloqué vos comptes bancaires, mais je crois qu'en 24 heures, vous avez récupéré, Dieu merci. Mais vous aviez une cagnotte litchi. Mais litchi, c'est pas la première fois hein, que les cagnottes litchi donc il faut pas aller sur litchi, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est voilà, donc des cagnottes litchi qui a été coupée avec 50 000 euros. Mais ce que moi je voulais vous faire dire, c'est que cette cagnotte, c'est une cagnotte de solidarité. C'est pas la cagnotte pour la table du Kyria ou les champs de Gaïa ou les champs de Gaïa. Ça, j'aimerais que vous nous parliez aussi
En
de
fait,
cette
nous,
notion de solidarité agricole. Je vous laisse la parole.
ça fait 2011 qu'avec Manu, on a monté une association. Donc, c'était même avant qu'on se mette en tant qu'agriculteur. C'était
Ah
depuis
oui.
2011. Et ça s'appelle l'association de Gaïa. Et en fait, donc au début, c'était plus pour promouvoir les savoir-faire anciens. Et en fait, au fur et à mesure, ça a été vraiment pour aider les paysans. Donc, nous, ça fait vraiment 5 ans qu'on l'utilise pour ça. Donc, on récolte des fonds et on aide des agriculteurs à un montant de 1 000 euros, en fait, pour chaque aide de paysan. Pareil, comme Vincent avec Ferme Envie. C'est ça, hein, c'est faible, c'est Ferme Envie, on est d'accord.
Ferme, ouais, ferme envie. Ferme envie, faible, c'est ferme envie.
Je suis, j'espère que j'ai pas fait une
Ah,
gaffe,
mais t'as
mais si,
carrément
je connaissais
raison de le
déjà
dire
FIEB
parce
depuis longtemps, et donc du
que.
coup.
Non, mais voilà. Ouais.
Donc, ça, donc on aide les agriculteurs plutôt porté sur la paysannerie, sur des petites productions et avec une idée d'agroécologie derrière et pas forcément en bio, parce que le bio, il y a plein de choses dessus, mais en tout cas avec cette envie de faire mieux, de faire bien et de faire en relation avec la terre. Et donc, on donne à chaque agriculteur 1 000 euros quand il rencontre des difficultés, quand il y a des tempêtes, quand il y a des… Voilà, à chaque fois qu'il y a des difficultés. Donc, c'est une enveloppe pour chacun qui peut en faire la demande. Et tant qu'il y a des sous, eh bien, on donne. Après, je ne sais pas combien de temps et je ne sais pas comment, on fait ce qu'on peut, mais bon, on fait ça. Et en fait, avec la DNC, effectivement, moi, je suis allée au front quand il y a eu les abattages. En plus, ils sont venus dans mon domaine, à même pas 1 heure de chez moi. Donc, c'était sûr que j'allais en parler. La DNC, j'ai été une des premières à en parler sur les réseaux sociaux quand ça a commencé dans les Alpes. Donc, quand ça a été juste à côté de chez nous, ben, c'est clair et net que j'y suis allée, quoi. J'ai perdu des plumes, ça a été difficile. Et ensuite, nous, du coup, on a été dans la zone vaccinale. Et donc, du coup, ils nous ont obligés à vacciner nos vaches. Et on a été une quinzaine, vingtaine au début d'éleveurs à refuser cette vaccination parce que il n'y a absolument rien de correct derrière. Et en plus, depuis maintenant qu'il y a eu les vaccinations, on les voit, les effets secondaires, mais sont bien pires que le mal. Là,
Oui.
j'ai des appels tous les jours d'éleveurs qui me disent, mais c'est catastrophique.
Ouais.
Sur 12 bêlages, il y a 11 morts. Enfin, c'est vraiment des trucs complètement
Ouais,
catastrophiques.
c'est
Donc, et en fait,
c'est
quand on a
criminel, il
commencé
hein,
à
faut quand même
avoir…
le dire. C'est criminel, hein, c'est
Ah non,
criminel.
mais
Et
clairement,
franchement, les
on en revient.
vétérinaires, on devrait afficher le nom de tous les vétérinaires qui ont collaboré à ça. Parce
Alors, on
que.
l'a fait et on
Ah
se
bah,
fait
il
bien
faut le
manger
faire. Non, non, faut
par le
arrêter.
préfet et par les autorités
Fou, parce que
parce
franchement,
que…
ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils pouvaient dire, je ne le fais pas, ne pas forcément monter au front. Je comprends que tout le monde ne puisse pas monter au front. Moi, j'étais tout à l'heure avec un chef très connu, et parce que moi, je travaille beaucoup avec les chefs, que je connais depuis longtemps, très très célèbre. J'en ai parlé aussi avec d'autres, mais là, j'étais juste avant de venir. Il me dit, on perd des plumes. Dès qu'on ouvre la bouche, on se fait casser, on a des contrôles fiscaux, on est harcelé, ça n'est
Ah,
pas.
complètement,
Ah
complètement. Et
oui.
du coup, on va en parler. Je vais te
Bon.
parler de ce que nous, il s'est passé. C'est, donc, du coup, nous, on a reçu ces mises en demeure de vacciner. Et en fait, quand on reçoit ces mises en demeure, à chaque fois, ça tord le bide, ça vient jusqu'au… Enfin, voilà,
Eh
c'est
oui.
très difficile. Et je ne voulais pas me faire manger, comme à chaque fois, avec cette histoire d'administratif, à toujours, en fait, nous obliger et à être dans cet état d'esprit de toujours de combat et tout ça. Et donc, du coup, j'ai pris ma mise en demeure, je l'ai déchirée et en fait, je l'ai collée sur une ancienne toile que j'avais depuis longtemps et j'ai peint un tableau dessus. Et pour en fait sublimer ça et puis montrer aussi l'absurdité de ce papier et de ce message et en fait voilà aussi expliquer aussi que c'est pas des papiers qui vont nous gouverner parce qu'actuellement c'est ça, c'est à coup de décret, c'est à coup de papier, on reçoit des recommandés sur des trucs complètement aberrants en oubliant tout le temps notre bon sens paysan et juste la cohérence en fait entre les actes et les obligations. Et donc du coup voilà
Oui,
j'ai fait ce tableau
ça fait
et
marcher
donc
la
du coup
poste, hein, au prix du timbre, ils vous en
voilà.
relancent,
Et
hein, des
donc du
trucs
coup,
et des machins,
ce
et des
tableau, je me
sondages, et
suis
des
dit,
trucs à la noix,
je vais faire une cagnotte autour de ce tableau, donc pour récupérer des fonds pour aider les paysans. Et donc il y aura quelqu'un qui sera tiré au sort et qui gagnera ce tableau, qui n'a une valeur que symbolique. Je ne suis
Oui.
personne moi avec ce tableau. En vrai,
Oui, t'es
je
pas
ne
une
suis rien.
artiste reconnue,
Sauf que
voilà.
pas encore, on ne sait pas, mais en tout cas pas encore. Avec toute cette histoire, monsieur le préfet me fait tellement de pubs,
Ah
on ne sait pas.
ouais, il est
Peut-être
formidable. Faut vraiment comme le prendre comme agent dans une seconde vie. Faut vraiment qu'il devienne agent de personnalité. Il est formidable.
Et donc, du coup, en fait, ils ont bloqué la cagnotte en disant que c'était un jeu d'argent. Et
Ah
c'est même
ouais.
pas qu'ils ont bloqué la cagnotte, pardon, ils ont saisi la cagnotte. Donc,
Saisi,
c'est-à-dire
c'est
qu'ils ont
ça.
volé, ils ont volé doublement les gens parce que cet argent-là est parti pour rembourser la dette française, dont moi, personnellement, je ne me sens pas absolument pas coupable de leur dette à la noix, étant donné que j'ai déjà les miennes et que moi, si je n'arrive pas à les payer, personne ne va les payer à ma place. Hein. Donc, si eux, ils gèrent mal l'argent
Ouais,
de nous, les Français, ce n'est pas à nous
ah,
d'en
mais c'est pas
pâtir.
pour
Mais
ça
bon,
que les gens ont
ça,
donné. Vous
c'est
savez que sur
encore
les
autre chose.
cagnottes, les donateurs doivent être remboursés, hein. Donc moi, je
Ah oui, mais
conseille à
là, non.
chaque
Là, ça a
donateur
été saisi.
de faire un collectif et de porter plainte ensemble et d'attaquer parce qu'on doit les rembourser, ces gens-là. Ah bah oui, mais si vous donnez à Pierre, vous
Donc,
donnez
du
pas à
coup,
Jacques,
ils ont saisi la
hein.
cagnotte. Donc, du coup, là, il y a zéro sur la cagnotte.
Ouais.
Et du coup, ils ont volé les gens qui ont donné la cagnotte et
Ah oui.
surtout les agriculteurs qu'on aurait pu aider.
Oui.
50 agriculteurs, quand même, qu'on aurait pu aider. Donc, il y a vraiment un double vol. Donc, là, on a fait appel. On a demandé justement aux gens qui ont participé à la cagnotte de faire des attestations et d'expliquer que c'était pas un jeu d'argent quand ils ont donné et que c'était vraiment pour donner soit à l'association, soit d'être remboursé, effectivement. Mais du coup, on en est là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, monsieur le préfet, parce que du coup, c'est le juge des libertés. Alors, en plus, c'est marrant parce que c'est le même juge des libertés qui a donné l'autorisation aux gendarmes et aux vétérinaires de rentrer sur nos fermes et de vacciner de force. Et donc, c'est le même juge des libertés là qui a bloqué ma cagnotte avec le procureur de la République et le préfet de l'Ariège. Donc, c'est le petit trio là qui a bloqué tout ça.
Bon, enfin,
Donc là,
liberté,
moi, il va falloir
liberté,
qu'il
mais
m'explique. Il va falloir qu'ils m'expliquent
ouais.
pourquoi ils nous empêchent d'aider ben, 50 agriculteurs à juste survivre en cas de coup dur, quoi.
La question,
Parce que
c'est juste des
justement, ben,
libertés de quoi, ouais.
on parle de la souveraineté alimentaire, on nous dit tout le temps, oui, on soutient les agriculteurs, etc. Mais dans les faits, en fait, non, on est juste là en train de toujours leur casser du sucre sur le dos, quoi. Donc, il y a eu ça, ensuite, il y a eu mes comptes saisis. Enfin, bon, il y a eu vraiment un acharnement par rapport à moi, parce que ben, j'ouvre. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, hein, que tu me connaissais déjà depuis longtemps sur les réseaux. Ça fait, moi, longtemps, ça fait au moins 2 ans et demi que je parle sur les réseaux sociaux et que
Ah
je
ouais, mais c'est
dénonce
ça, depuis
un
plus de
peu
2 ans,
tout ce
là, je
qui se
connais.
passe au niveau agricole. Et donc, du coup, là, en fait, ils sont venus m'attaquer à moi, dans ma ferme, avec mes amis, dans mon territoire. Ben, c'est non, en fait, c'est pas possible, en fait, c'est hors de question. Et là, on ira en frontal, c'est pas possible. Moi, mes terres, je suis responsable de mes terres, je suis responsable de mes vaches. Il est hors de question qu'on y rentre et que ce soit des personnes qui n'y connaissent absolument rien, qui me disent
Oui,
comment faire pour m'occuper de
bon,
mes vaches, de mes cochons, de mes
c'est
poules et
oui.
de mes légumes, en
Non,
fait.
non, mais c'est
Donc,
surtout qu'il y a eu quand même des arguments très, très circonstanciés pour dire que ce n'était pas forcément nécessaire d'obliger les gens à vacciner. Et en tout cas, ce n'était pas les moyens qu'il fallait prendre
sur
avec des quarts
76 000 vaches.
C'était beaucoup, c'était des moyens qui étaient quand même coercitifs, des moyens gigantesques avec des camions, etc., de gendarmerie qui n'ont rien à faire là. Donc c'est vrai que ça a beaucoup choqué, mais l'avantage, c'est que ça a permis une vraie médiatisation, une prise de conscience que en fait, il y avait des petits paysans et qui faisaient bien les choses, notamment cette éleveuse qui travaille sur la génétique et donc sur
C'est
la
ça.
santé des vaches et sur l'immunité, parce que en fait, ce qui est très très important pour avoir une bonne race, c'est l'immunité. Et donc, il y avait un vrai travail, c'est-à-dire qu'il y a aussi un travail scientifique, quoi. C'est pas, y a, parce qu'il y a un mépris, vous savez, un mépris de classe aussi, hein, qui est très important chez ces gens de l'administration française et européenne avec le peuple. Mais en fait, à un moment donné, quand ils voient la confrontation, ils se rendent compte que c'est pas eux les compétents en fait, et
Oui.
donc c'est aussi ça qui les exaspère également. Bon, je vais quand même revenir à Vincent Crosse parce que il y a quand même des petits retours sur investissement. Parce que moi, je voudrais que les gens mettent de l'argent dans l'agriculture, se tournent vers l'agriculture beaucoup plus, sauvent nos terres, c'est ça le message. Aille aussi se faire du bien à la table de Gaïa. À Montjoie, près de Foix. Mais Vincent Crosse, on y a des petits retours sur investissement. Et ça vaut le coup, parce qu'aujourd'hui, le livret A, et on va terminer là-dessus, parce que c'est voilà, c'est mieux que le livret A, parce que beaucoup de gens, il paraît qu'il y a des milliers de gens, enfin, je sais, j'ai pas le chiffre, hein, mais vraiment, c'est une vague gigantesque de gens qui retirent l'argent du livret A. Mais où le mettre? Alors voilà, un exemple.
Ouais, alors, je dirais pas que c'est mieux que le livret A, c'est différent, parce que le livret A, c'est quelque chose qui est très sûr et très liquide, où on peut récupérer son argent du
Oui,
jour au lendemain,
dès qu'on en a besoin pour une
dès
petite
qu'on en a besoin. Donc, pour
dépense, oui, bien
avoir
sûr.
quelque chose qui, en épargne de sécurité, on fait pas beaucoup mieux que le livret A, mais c'est sûr que le livret A, à côté de ça rapporte pas beaucoup. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un truc qui soit intéressant pour les agriculteurs et qui permette de fonctionner pour des investisseurs. Donc, en fait, quand les gens investissent, on vise une rentabilité qui est assez mesurée, puisqu'on vise 2 à 3 % par an, ce qui provient des loyers payés par les agriculteurs essentiellement, et
C'est
puis un
pas
petit peu
mal.
de la revalorisation éventuelle du foncier. Et à cela s'ajoute une réduction d'impôt, parce que la foncière a un agrément de l'économie sociale et solidaire, ce qui permet de donner droit à 25% de réduction d'impôt quand les gens investissent. Et donc, si on regarde ces 25%, par exemple, sur 7 ans d'investissement, bah, ça fait 3-4% qui vont se rajouter au petit rendement de 2-3% qu'on vise. Et c'est vrai que quand on ajoute les deux, ça commence à devenir intéressant. Et c'est pour ça que les gens sont attirés par ce qu'on propose, parce que c'est à la fois quelque chose qui a du sens et qui permet bah, d'avoir un impact concret et visible sur le territoire avec son argent et qui permet aussi de rapporter un petit peu d'argent et donc d'avoir un intérêt qui est intéressant. Après, voilà, ce que je disais, c'est que c'est quand même différent du livret A parce qu'on n'a pas la même liquidité. C'est vrai que quand on investit dans la foncière de Fèves, normalement, on est censé conserver ses parts pendant 7 ans.
Ah oui,
Sinon, la réduction
bien
d'impôt, on la
sûr,
perd, on doit la
bien sûr.
rembourser. Donc,
Moi,
c'est un investissement long terme.
on peut faire les deux. Les uns
Bien
peuvent
sûr.
investir et les autres peuvent aller sur l'exploitation. Enfin, il y a plein de modèles. Donc Fève, c'est FEV, E ferme en vie, hein, voilà,
FEV, ouais.
VE.co, CO. La
Ouais,
table
c'est
de
ça, exactement.
Gaïa, donc ça, c'est ouvert toute l'année ou c'est saisonnier, Kyria?
Pour l'instant, c'est ouvert toute l'année.
Et donc, je l'ai dit à Montjoie, c'est très joli, j'ai envie de dire Montjoie-Saint-Denis, parce qu'il y a vraiment, ce serait vraiment le cas de le dire. Et puis ensuite, il y a une cagnotte. Alors, vous êtes allé cette fois-ci ben, sur le bon côté des États-Unis, vous avez pu mettre une cagnotte. Je me souviens, c'est quoi, en 24 heures ou 2, 3 jours, 147 000 euros. Et là, j'imagine qu'elle a un peu monté et que vous allez essayer de la récupérer pour pouvoir aider bah,
Ouais,
nos
alors ça,
pauvres paysans.
c'est pas évident de pouvoir la récupérer. Donc, on est en train, mais ça suit son cours et on
Bon.
va voir comment on va pouvoir
Bah, vous êtes en association,
aller.
de toute façon.
Oui, tout à
Donc, il n'y a
fait.
pas plus cadré que c'est un compte d'association et extrêmement cadré. Franchement, voilà, on ne peut pas tellement faire d'erreurs. Tout est
C'est
très
pas si simple.
contrôlé,
On
hein.
est en train de voir avec des
Bah.
avocats fiscalistes,
Et
hein,
tant
c'est pas
mieux,
si simple,
oui.
mais bon,
D'accord.
on est en train de
Bon.
gérer ça.
Et voilà. Et bon, voilà. C'est pour ça que je veux dire, vos modèles sont fondamentaux parce que là, moi, je viens de découvrir un projet à Perrin et d'une ferme de 1 million de poules, 1 million 100 000 poules par an dans la Drôme. Donc, avec l'eau qui sera contaminée, plus de 14 500 litres d'ammoniac dans la
Et tu
nature.
vas voir que ça, il n'y aura jamais de salmonelle sur ça.
Donc, et avec un
C'est ça,
million, elles ne
c'est
verront,
sûr et certain.
et deux poules qui ne verront pas le jour, elles seront à peu près 150 000 en même temps, à peu près, hein, 140, bon. Et puis après, un peu plus loin, dans une autre région, il y aura aussi un élevage de vaches, pareil, gigantesque. Et tout ça génère de part et d'autre, trois emplois d'un côté, 3 000 vaches. Trois emplois et 1 200 000 poulets par an pour combien? Je crois que c'est trois emplois aussi, ou deux emplois, enfin quelque chose de c'est du délire, voilà, c'est du délire. Et là, ça ne pose pas de problème, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que je vous remercie particulièrement tous les deux, Vincent et Kyria, pour ce travail magnifique que vous faites. Et franchement, on devrait être beaucoup plus nombreux à aller vers l'agriculture et vers vos projets. Et puis, bah, Kyria, on vous suit sur Instagram, surtout. La table de Gaïa. La table de Gaïa. Et comme ça, on peut même aller voir pour la cagnotte, si vous arrivez à la récupérer, pour pouvoir abonder,
Oui, après, je
etc.
tiens au courant,
Et on se tient au
ouais.
courant. Merci, Kyria. Merci, Vincent.
Merci
À
beaucoup.
bientôt!
À bientôt.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Monsieur de Lafayette avait un air honnête, avec ses souliers cirés, son fourreau, son épée, son chapeau et sa canne frappée. Et son sourire éclatant qui brillait tout le temps comme un 36 diamants. Moi qui suis paysanne, native de Louisiane, quand il m'a demandé où pourrait-on loger, j'ai répondu ici, farewell, j'ai répondu ici. Et c'est depuis ce jour, farewell, qu'il lâche mon logis. Monsieur de Lafayette habite une chambrette, et moi qui dors à côté, je l'entends respirer, ça me fait quelque chose pour aussi. C'est bien joli la guerre et les fusils, mais l'amour dans la vie, ça existe aussi. Moi qui suis
Amis auditeurs, je vous entraîne maintenant, non pas dans la chambrette du grand Lafayette, mais plutôt sur les champs de bataille, à l'Assemblée, dans sa grande tournée au pays du monde libre, les États-Unis, les Amériques, hein, l'Amérique du Nord. Voilà. Eh bien, c'est le 250e anniversaire, hein, pour les États-Unis. C'est les 200e anniversaire aussi du Lafayette College. Donc, il y a des anniversaires à fêter. Et pour ce faire, en ma compagnie, un descendant, rien moins que cela, de Lafayette, Gilbert Puisy de Lafayette, et qui porte le même nom que Lafayette, Gilbert de Lafayette, voilà. Gilbert de Puisy de Lafayette, bonjour, merci d'être bonjour. Là aujourd'hui
merci
avec
à
nous
vous.
Pour de représenter et faire ce lien entre le passé, l'au-delà et le présent, entre Lafayette et nous, ce grand personnage à la fois français, avec, pour lequel nous allons faire un portrait en demi-teinte, mais glorieux pour les États-Unis, puisqu'il a contribué à la liberté, enfin des États-Unis, à sa libération de la perfide Albion. Et de l'autre côté, Jean-Mathieu Robin, bonjour, vous êtes
bonjour.
Généalogiste, membre des Fils de la Révolution américaine que vous représentez aujourd'hui.
Comme Gilbert, qui en est également membre.
Comme Gilbert.
Oui, sacré membre.
Et donc c'est une organisation, une association avec 40 000 membres, 60...
Oui, alors ça c'est aux États-Unis principalement,
oui.
Parce que c'est une association qui a été fondée par des Américains dans le dernier quart du 19e siècle et qui par la suite et s'est mise en France. Elle rassemble des descendants directs de personnes qui ont contribué à l'indépendance des États-Unis. Et Gilbert y est bien sûr au titre de son ancêtre, le général marquis de Lafayette. Moi, j'ai d'autres ancêtres qualifiants qui ne sont pas connus du grand public. En France, nous sommes un peu plus de 600 membres.
Oui. Alors, nous avons beaucoup à dire sur ce général de Lafayette qui a vraiment marqué les esprits et qui est un personnage emblématique à bien des égards. D'abord parce que, on le connaît à travers la Révolution américaine à laquelle il vient prêter main forte. On le connaît parce qu'il a eu un rôle dans la Révolution française. On le connaît parce que c'est un des premiers personnages à manipuler l'opinion publique et à travailler sur son image d'une manière quasiment publicitaire. Pas forcément retourné sa veste, mais avoir eu un rôle en demi-teinte et pas toujours très identifiable dans l'histoire de France jusqu'à sa mort en 1834. Alors déjà, on peut parler de cet anniversaire qui est quand même suivi en France à travers une exposition aux Archives nationales à Paris. En plus, c'est une exposition gratuite dans un très bel hôtel particulier. Donc, il faut profiter pour aller voir les lieux et surtout voir cette exposition qui n'est pas forcément très didactique, c'est-à-dire qu'elle est bien pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de France, en tout cas de la période. Mais il y a beaucoup d'objets. Nous sommes allés la découvrir ensemble, Gilbert. Voilà. Donc, vous allez nous en dire un mot et dire ce que vous en avez pensé. Déjà, on peut vous demander, puisque vous êtes son descendant, quels sont les liens de famille ? Parce qu'il y a plusieurs liens, d'ailleurs, dans votre famille, qui se relient d'une manière ou d'une autre à Lafayette. Et qu'est-ce qu'il a représenté après dans l'histoire de votre famille ? Et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, à votre avis, en France ?
Alors, ce que je pourrais commencer par... un peu comment Lafayette est rentré dans ma vie, comment je l'ai connu petit à petit. Alors ça a commencé assez jeune, en 1957, c'était le bicentenaire de sa naissance. Et on était en Auvergne et tout d'un coup, c'était quand même très isolé là où on habitait. Il y avait quelques passages, mais tout d'un coup, il y a eu une foule énorme qui est arrivé avec des personnes, donc je comprenais pas, c'était des Américains qui venaient, il y avait des Louisianais qui défendaient le français encore en Louisiane, et puis j'avais 5 ans, et donc là j'ai été pour la première fois interpellé par ce personnage, un de mes ancêtres directs, le général Lafayette. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, au cours des années suivantes, j'ai pu aller à Chavagnac-Lafayette, où était né Lafayette, qui n'était pas très loin. Et j'ai vu M. Moffat, qui existait, qui vivait encore. C'est lui et avec Mme Chandler qui ont acheté et sauvé le château natal de Lafayette. J'ai été invité à un repas, dont je me souviens très bien. Et puis, il y a des personnages assez étonnants qui sont arrivés aussi. Monsieur Spanel, qui est né d'Europe de l'Est, qui a été sauvé par les Français et qui, après, a été aux États-Unis où elle a fait une grande fortune. Mais il avait toujours une reconnaissance envers la France, comme Monsieur Moffat, et qui avait participé à la guerre de 14-18. Et donc, quand la France était attaquée, il prenait une page d'un grand journal pour défendre la France. Donc voilà, j'ai été bercé petit à petit dans ce milieu. Et ça a été l'école, donc les professeurs d'histoire. Alors là, c'était très compliqué. Parce que Lafayette n'était pas très aimé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc il y avait les professeurs d'histoire traditionnalistes, même religieux, qui disaient que Lafayette avait trahi la royauté, ce qui est complètement faux, parce qu'il a tout fait pour essayer de sauver la famille royale. D'ailleurs, Marie-Antoinette et Charles X l'ont reconnu. Marie-Antoinette a eu un petit mot assez dur. Elle a dit « Lafayette nous a sauvés, mais qui nous sauvera de Lafayette ?» Bon. Voilà, et puis donc, et de l'autre côté, c'était plus tard, des professeurs plutôt de tendance de gauche qui disaient que Lafayette avait trahi le peuple. Alors il y a eu cette petite journée où il n'a pas été concerné directement, de journée du Champ de Mars où il y a une fusillade, on a tiré sur le peuple. Mais Lafayette est arrivé bien après et a arrêté, parce qu'il voulait se servir des canons, arrêter justement cette fusillade. Donc c'était très compliqué. Mes premières approches scolaires sur Lafayette. Et puis il y a eu, en 85, il y a eu cette... Donc après on a été à Paris... En 67, et c'est là où j'ai fait partie des Fils de la Révolution américaine, où j'ai découvert Picpus, où a été enterré Lafayette et sa femme, qui était une femme remarquable. Et en 85, il y a eu la construction de la pyramide, donc où se trouvait Lafayette, la statue de Lafayette, que peu de gens connaissaient, parce que c'était dans un petit square, en face de l'entrée du musée. Donc il a fallu lui trouver un nouvel emplacement, et finalement l'emplacement qui a été pris, c'est Cour la Reine, en face de la statue de Simon Bolivar, que je connaissais très mal, et j'ai découvert personnage extraordinaire, qui a sauvé et créé l'indépendance de plusieurs pays d'Amérique du Sud. Et il y a eu une correspondance importante entre Bolivar et Lafayette. Ce n'était pas la même génération, mais Lafayette a soutenu Bolivar durant son combat.
Ah oui, c'est pas souvent notifié.
Et donc, je travaillais à l'hôpital Cochin, avec un des médecins qui était d'origine colombienne. Et finalement, à force de m'entendre parler de Lafayette et de Bolivar... Elle m'a invité donc chez elle, en Colombie, où j'ai vu où était passé Bolivar et où il est mort. Et avec son dernier médecin, c'était un médecin français d'ailleurs, qui était enterré là-bas près de Santa Marta. Et à un baptême, j'ai rencontré mon épouse, qui est devenue mon épouse. Ouais,
Donc voilà, même Lafayette vous a marié d'une certaine manière, c'est incroyable.
Un complot entre Bolivar et Lafayette
qui
m'est tombé
de
dessus,
merveilleusement
bien. Voilà. Et puis en 81, donc j'étais pour la première fois aux États-Unis et pour la célébration du bicentenaire, la victoire de Yorktown par les Fils de la Révolution américaine. Et j'ai passé un mois, et c'est là où je me suis rendu compte de la popularité incroyable de Lafayette aux États-Unis. Je ne m'en rendais pas compte de France. Donc ça m'a beaucoup marqué. J'y suis retourné souvent après, que ce soit à Boston, que ce soit à Philadelphie, que ce soit en Louisiane. Ça soit en Californie, donc j'ai pu voyager et en même temps défendre le français. Voilà. Donc c'est voilà les premières rencontres que j'ai faites et comment Lafayette est rentré dans ma vie.
Ce serait intéressant d'ailleurs, c'est pas le propos de l'émission, mais d'aborder la question de la Louisiane à la lumière de Lafayette, qui se voulait défenseur de la liberté. C'est comme cela qu'on l'a. Comment est-ce qu'on oui. l'appelle d'ailleurs? L'homme de la liberté.
Le héros des deux mondes.
Le héros des deux mondes. Voilà. Et ce serait intéressant de voir comment, quel rôle il peut ou pourrait jouer en Louisiane. C'est qu'en Louisiane, il y a une forme d'autonomisme qui est revendiquée aujourd'hui. Ouais. Et peut-être pourrait-il s'inspirer ou se revendiquer de la figure de Lafayette.
Oui. Ce serait... il se revendique parce que Lafayette, qui est une ville qui est au nord de la Nouvelle-Orléans, et le centre de la francophonie de la Louisiane.
Ouais.
Et il y a une statue d'ailleurs qui a été faite là-bas, donc j'ai été trois fois, et la dernière fois avec mon épouse.
Une grande perte pour la France hein, quand même, la Louisiane. Bon, enfin,
oui,
alors maintenant on va parler...
Mais...
Oui. Bon, enfin, bon, rien n'est jamais perdu, on sait jamais, mais bon, on peut se prendre à rêver. Alors, on va parler de Lafayette lui-même, du personnage qu'il était, d'abord du jeune homme, de l'enfant, qui très tôt a rêvé de chevalerie, d'exploits, et qui est devenu militaire d'ailleurs.
Tout à fait. Il a été orphelin très tôt, il a perdu son père qu'il a pratiquement pas connu. Il avait 2 ans et sa mère est morte, il avait 12 ans donc, et il s'est retrouvé à la tête d'une fortune importante qui venait du côté en particulier, les Lafayette n'étaient de noblesse de province, donc ils avaient une fortune mais pas la plus grande partie de sa fortune venait de sa mère. De la rivière. Donc voilà, et c'est par la rivière qui était proche de la cour qu'il a connu la famille de Noailles et qu'il a épousé, mais ça c'était organisé à l'avance, Adrienne de Noailles. Ils étaient très jeunes, hein, et à peine 17 ans.
Mais ça a été le grand amour quand même.
Ça a été le grand
hein.
amour, ah, oui. Et vraiment, elle l'a beaucoup aidé dans sa vie de tous les jours et dans la gestion du domaine, essayant de rattraper toutes les dépenses qu'il faisait pour la guerre d'indépendance américaine. Donc vraiment, elle a...
Il s'est ruiné, hein, d'ailleurs, pour ses idéaux, quand même. C'est quand même un exemple. Ouais, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sous prétexte politique. Là, c'est l'inverse. Même si on n'est pas toujours d'accord avec ses choix, c'est quand même un homme qui a tout sacrifié à son idéal. Hein.
Et si je puis me
permettre...
Jean-Mathieu
Robin.
Oui. Il y a une chose qu'on devrait souligner davantage à propos de Lafayette, me semble-t-il, c'est qu'il y a une constance dans ses idées. En ce qui concerne la France, il a toujours voulu une monarchie parlementaire. Comme elle a échoué très tôt sous la Révolution... qu'elle n'a pu réapparaître vraiment qu'avec la Révolution de 1830, à laquelle Lafayette a participé. Et justement, c'est en 1830 que les républicains se sont trouvés, ont trouvé que Lafayette les trahissait au profit de Louis-Philippe, le duc d'Orléans, devenu roi des Français, Louis-Philippe Ier, grâce à Lafayette. Alors, en fait, les républicains se sont sentis trahis, mais parce qu'ils se sont trompés. Lafayette n'était pas républicain.
Vous mettez le doigt sur le...
De même que les partisans de l'ancien régime critiquant Lafayette qui aurait trahi le roi, mais Lafayette n'était pas un partisan de l'ancien régime.
Sauf que... Il est resté fidèle et ça, il faudrait expliquer en quoi, malgré tout ce qu'on pourrait penser, quoi, il est quand même resté fidèle à Louis XVI. Il a servi Louis XVI, il faut
fait,
peut-être le
oui.
dire
parce
comment.
Ce qui était important pour lui, c'était l'autorité, qui est une autorité, surtout de par les temps qui couraient au moment de la Révolution française, et s'est aperçu du danger des Jacobins. Et il n'a pas hésité à critiquer les Jacobins, ce qui lui a fallu d'être menacé de mort. Il dirigeait une des armées donc révolutionnaires et il était obligé de s'expatrier Et il a été pris par les Prussiens et les Autrichiens. Il a passé 5 ans dans les prisons prussiennes et autrichiennes. Et ça, on le sait moins bien. Et il a été libéré par les premières victoires de Bonaparte, au traité, entre autres, de Campo Formio, qu'il avait inscrit la libération des prisonniers de Olmutz.
Mais voilà. Déjà, entre 1789 et 1792, où il va partir en exil... Oui. Il est quand même proche de Louis XVI. Il faut expliquer en quoi. C'est ça que je voudrais que vous expliquiez, là, que vous racontiez, ou Jean-Mathieu, comme vous voulez.
Ou plutôt Gilbert.
Alors Gilbert, depuis
tout à fait. Il était proche de Louis XVI.
Il a été commandant de la garde nationale.
Oui, voilà, de Paris. Et il a participé plus ou moins.
Il était député aussi, on ne l'a pas dit, mais ça, c'était quand même important. Enfin, tout ça, il faut parler de sa carrière de manière concrète.
L'Assemblée constituante, qui était une assemblée qui a fait beaucoup de choses, dont on oublie un peu, sous l'autorité de Louis XVI. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, en particulier pour la défense des Juifs et des protestants, qui ont été faites. Et il a participé d'une façon importante à la Déclaration des droits de l'homme. Et il a soumis cette première déclaration à Jefferson, qui était en France à ce moment-là. Et Jefferson lui a dit que c'était trop copié sur la déclaration américaine. Donc il a mis des annotations. Et malheureusement, je ne sais pas ce qu'est devenue cette déclaration, cette première déclaration ou des premiers articles écrits par Lafayette et rectifiés par Jefferson. Voilà, donc... ça a servi de base pour la déclaration des droits de l'homme française.
Ouais. Voilà. Alors ça une certaine forme de fidélité au roi, on va y revenir, si vous voulez, pour un peu clarifier. Mais il faut raconter son lien avec les États-Unis et comment les États-Unis viennent, comment ils demandent à la France, en fait, les États-Unis demandent à la France de l'aide pour leur guerre d'indépendance contre les Britanniques. Et donc, Lafayette va convaincre le roi et le marquis de Vergennes d'intervenir.
C'est un peu plus compliqué.
Oui, mais enfin, bon, il faut résumer.
C'est le récit traditionnel qui n'est pas faux, mais qui oublie une chose importante, c'est le rôle des frères de Broglie. Alors, qui étaient ces frères de Broglie? Donc, deux frères. L'aîné, le duc de Broglie, était juste au début de la Révolution américaine, de la guerre d'indépendance américaine, gouverneur militaire de Metz. Son frère cadet, le comte de Broglie, était l'ancien patron du secret du roi, un service secret créé par Louis XV et officiellement dissous par Louis XVI. Mais vous savez, dans les services secrets, c'est pas parce que c'est officiellement dissous que c'est complètement disparu. Parce que Louis XVI ne pouvait pas ignorer que ça pouvait être utile. Et puis le comte de Broglie, sachant très bien ce qu'il pouvait faire pour le roi, bien sûr, il était tout à fait fidèle au roi, garder quand même intact ses réseaux. Et à l'époque, le jeune Lafayette était dans un régiment qui était à Metz. Donc, il était sous les ordres du duc de Broglie. Et c'est le comte et le duc de Broglie qui ont eu l'idée d'organiser un dîner où ils ont invité Lafayette et ils ont invité aussi, alors c'est curieux, mais un Britannique. Mais ce Britannique, il était dans l'opposition par rapport au gouvernement britannique de l'époque. C'était un critique, mais viscéral, de la politique menée par le gouvernement britannique dans les 13 colonies révoltées d'Amérique du Nord, les États fondateurs des États-Unis. Et il comprenait, ce Britannique, il comprenait tout à fait les Américains. Donc c'était l'homme idéal pour convaincre Lafayette de s'engager dans cette aventure. D'autre part, Louis XVI et Vergennes, ça fait un moment, à ce moment-là, qu'ils se tâtaient et qu'ils envisageaient d'agir, mais le problème pour eux, c'était notamment de choisir le moment opportun pour intervenir.
Oui, alors il faut savoir que le marquis de Vergennes, je vous le dis, c'est mon aïeul. C'est mon... Voilà. Donc,
félicitations.
Oui. Je suis très, très fière de mon aïeul, le marquis de Vergennes. Je pense d'ailleurs que la Révolution n'aurait pas été ce qu'elle a été s'il n'était pas mort prématurément. Quand il a repris les finances, et lui, je pense qu'il aurait, il aurait su, et donc on n'aurait pas eu la Révolution telle qu'elle était, il aurait pu sauver la France. Et c'était un grand ministre aussi des affaires étrangères, hein, très grand. Et lui, effectivement, il avait pas digéré la guerre de 7 ans non plus. Et donc, c'était un élément aussi en faveur de l'intervention en Amérique.
Très important, la guerre de 7 ans. Lafayette, lui aussi, l'avait pas digéré parce qu'il avait perdu son père, pas Gilbert ?
Oui, à la bataille de Minden, oui. Oui, tout à fait. Par un boulet anglais, d'ailleurs, il a été tué.
C'est toute la France, enfin, à des degrés divers, bien sûr, mais c'est quand même toute la France qui n'avait pas digéré la défaite de la guerre de 7 ans. Mmh. Et c'était dans tous les esprits, et ça explique en partie la popularité de la guerre d'indépendance américaine chez les Français. Quand un gouvernement entre en guerre, il n'y a pas toujours un mouvement d'opinion aussi favorable que ça l'a été à ce moment-là. Ces Américains, ils avaient tout pour plaire. Premièrement, ils se battaient contre les Anglais, à l'époque, ennemis héréditaires de la France. Les temps ont bien changé, mais au XVIIIe siècle, c'était le cas. Et deuxièmement, justement, c'était en Amérique du Nord. Or, c'est à la guerre de 7 ans, à l'issue de la guerre de 7 ans, que la France a perdu définitivement son empire colonial en Amérique du Nord, au profit des Anglais principalement, et secondairement des Espagnols.
Ouais. Donc là, il va y avoir 4 voyages dans la vie de Lafayette aux États-Unis. On peut les raconter. Donc le premier, c'est pour intervenir de manière militaire. Et donc on peut raconter le premier voyage.
Oui, Gilbert, ça n'a pas été sans mal.
Lafayette.
Parce que le roi voulait que les choses se passent le plus discrètement possible. Donc il a fait semblant, est-ce que vraiment il y pensait, d'empêcher Lafayette de partir. Donc il devait partir de Bordeaux, et puis il a fait semblant de revenir, de rester en France, mais il a rejoint le bateau au Pays Basque, à Los Parajes, et il est parti de là, le plus discrètement possible. Bon, il n'était pas le seul, il y avait tout un ensemble de militaires, de jeunes d'ailleurs, français et américains, qui ont pris ce bateau, qui a été nommé La Victoire, c'était prémonitoire. Et donc il est parti, et il a été reçu, les insurgents, parce qu'on ne peut pas parler encore des Américains, étaient un peu prudents avec ces jeunes un peu cervelés. Et ils se disaient, c'est parce qu'ils veulent avoir monté en grade et tout, se servir de cette guerre. Et Lafayette, pas du tout, il a pris le contre-pied, il a dit, moi je veux servir comme un simple soldat. Alors qu'il avait quand même des références. Et ça a étonné ceux qui dirigeaient, en particulier Washington, qui a demandé à voir ce jeune homme, puisqu'il n'avait pas 20 ans. Il y a eu des liens qui se sont créés comme entre un père et un fils. Et à partir de ce moment-là, il a eu des responsabilités importantes. Et c'est vrai qu'avec ses voyages, il a servi d'ambassadeur auprès du roi de France pour l'inciter à amener des troupes officielles pour aider les insurgents. Voilà, donc il a fallu beaucoup d'efforts. Ça, de ce côté-là, il a eu un rôle assez important. Et ça a été avec l'envoi alors d'un autre ancêtre que j'ai, qui était le maréchal de Rochambeau, qui était général à ce moment-là, et qui était le grand responsable de l'infanterie, de toute la... Il a dirigé toute l'armée française, donc il a eu un rôle important, le maréchal de Rochambeau. Mmh. Voilà, parce que mon grand-mère maternelle était une Rochambeau. Ma mère est née au château de Rochambeau, et mes parents sont mariés au château de Rochambeau, près de Vendôme.
Alors, donc là, on est à peu près... son premier voyage, c'est quelle année? Parce qu'en
1777,
oui. En 78, c'est Benjamin Franklin qui vient essayer de persuader Louis XVI d'aider les insurgés. Et en 1780, donc Lafayette part avec l'Hermione. Il faut quand même parler de l'Hermione, célèbre. Ça a parlé aux plus jeunes aussi, qui se sont intéressés à sa reconstitution, d'ailleurs. Un peu en péril actuellement, mais bon...
Difficulté,
ça n'a pas été forcément très, très bien fait.
Ouais.
Mais enfin, en tout cas, voilà, l'Hermione, c'est quand même célèbre. Ça fait tellement rêver qu'on en a même fait une reconstitution. Pourquoi, en fait?
Alors, je suppose que c'est parce que le fait que Lafayette revienne aux États-Unis sur une frégate de la Marine royale, c'est le symbole d'une réussite. C'est le symbole du fait que la France est officiellement en guerre aux côtés des Américains révoltés. C'est un contraste par rapport à la situation précédente en 1777, où Lafayette part discrètement à bord d'un navire qui certes s'appelle la Victoire, mais qui est un navire marchand. Et c'est un départ, disons, semi-clandestin. Tandis que le deuxième voyage de Lafayette en Amérique, c'est un départ, on ne peut plus, officiel. Donc c'est un triomphe. Je suppose que c'est ça qui rend si populaire ce voyage sur l'Hermione.
Ouais. Et puis, alors ça c'est 78, et puis il va y avoir cette grande bataille décisive en 1781, aux côtés de Washington, la bataille de Yorktown qui scelle la victoire des insurgés.
Cette bataille n'aurait pas pu être, cette victoire franco-américaine n'aurait pas pu être possible sans auparavant, en septembre, la victoire de l'amiral de Grasse sur la flotte britannique, et qui est juste au large de Yorktown.
Ah oui.
Devant l'entrée de la baie de la Chesapeake. Et c'est pour ça que cette bataille s'appelle tantôt la bataille de la Chesapeake, tantôt, mais ça plutôt en anglais, la bataille des caps, sous-entendu les deux caps qui ferment, le détroit de l'embouchure de la Chesapeake, justement.
D'accord.
Et Yorktown est juste à cet endroit, juste à l'entrée de la baie de la Chesapeake. Et donc... la victoire navale de la Chesapeake empêche les Britanniques de renforcer, de venir au secours de leurs troupes assiégées à Yorktown, contribue très efficacement à la victoire des troupes terrestres, françaises commandées par Rochambeau et américaines commandées par Washington, avec notamment des forces assez importantes sous les ordres de Washington commandées par Lafayette. Voilà. Et puis là, on a vraiment la victoire à Yorktown qui est le grand tournant de la guerre. La guerre continue après, mais c'est une victoire décisive qui, sans mettre fin à la guerre, impose l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance des États-Unis.
Ouais. Alors, troisième voyage, pour toujours comprendre l'idéal de Lafayette et les liens entre les États-Unis et la France, c'est 1784. Là, il va faire un voyage avec pour un projet d'émancipation des esclaves. Et parce qu'il va trouver qu'il y a quand même une contradiction avec les idéaux de liberté que lui prône et les États-Unis également. Et donc, et puis Louis XVI était contre l'esclavage aussi, hein, c'est prononcé contre oui, l'esclavage. Oui. On n'a pas eu d'esclavage, nous, en France, de France métropolitaine, de toute façon. Mais donc, oui. Il ne peut pas accepter. Enfin, pour lui, c'est quand même antinomique et il y a une contradiction.
Oui, pas uniquement les Noirs, parce qu'il s'est beaucoup intéressé aux Indiens. Il faut savoir qu'avant la guerre d'indépendance, les Français sont venus en Louisiane, entre autres, et dans d'autres régions, et ont créé des liens, parce que se trouvant seuls vis-à-vis des colons, ils avaient peu de chances de se maintenir. Donc ils ont créé des liens naturels avec les Indiens. Et d'ailleurs, les premières victoires de Washington, c'était contre les Indiens et les Français. Donc il y a eu toujours cette amitié entre là. Et à un moment, il y a Washington qui a envoyé Lafayette au nord des États-Unis, des futurs États-Unis, pour trouver une armée, former une armée, pour attaquer les Anglais au Canada. Donc il y a été, et quand il a vu l'état de cette armée, il a dit qu'il ne pourrait jamais rien faire. Mais au même moment, il y avait une réunion des Indiens, parce qu'il faut savoir que les Indiens, du fait de ce qui s'était passé, n'étaient pas très chauds, pour certains, à soutenir Washington, à soutenir les insurgents. Donc ils étaient assez partagés. Et il a été à cette réunion, et il s'est présenté et tout, et comme les Français était toujours admiré par les Indiens avec une grande sympathie. Il a réussi à ce que plusieurs tribus acceptent de soutenir les insurgents. Il y a eu un tournant qui a été assez bénéfique. Donc il a toujours soutenu les Indiens et évidemment donc les Noirs, puisque quand il est arrivé le premier temps avec la victoire, il est tombé sur des Noirs qui l'ont accueilli, qui ont eu très peur. Et donc, il a vu comment se passaient un peu les relations entre les insurgents et les Noirs qui se trouvaient aussi dans l'armée. Mmh. Et il a eu d'ailleurs un fidèle qui était un peu un espion, qui allait aller voir ce qui se passait du côté des Britanniques et qui a pu aider Lafayette et d'autres à pouvoir se défendre et à échapper aux armées anglaises.
Alors, voilà. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va revenir en France où il va être un peu absent, sauf dans le monde des idées, jusqu'à la chute de Napoléon en 1815, c'est ça ? Où il va reprendre du service jusqu'en 1830 comme député, 1814-1830. Après, il soutient, donc, comme vous l'avez dit, Jean-Mathieu Robine, Louis-Philippe. Et là, on va voir apparaître, dans les minutes qui nous restent, peut-être ce personnage public, adulé, décrié, qui travaille sa notoriété comme un publiciste, même il embauche des gens pour l'applaudir lors de ses discours et de ses prises de parole. On a aux États-Unis, mais même en France, des portraits, même des tasses, on ne devrait pas dire des mugs, ce serait des mugs, mais des tasses, des assiettes à son effigie, on appelle ça des goodies, l'effigie de Lafayette, c'est absolument incroyable. Et le personnage est aussi décrié qu'adulé, alors qu'il a plus ou moins une image de modéré, donc c'est assez complexe. Et Chateaubriand dira de lui, la liberté l'invoque à Washington, l'anarchie à Paris. Oui. J'aime beaucoup la formule de Chateaubriand. Oui. Chateaubriand.
Donc je finis un peu sur les Noirs. Oui. Donc il a créé.
Il nous reste deux minutes. Hein.
Ah oui, il a participé aux Amis des Noirs qui a été créé sous Louis XVI. donc contre l'esclavage qui a été remis par Napoléon. Et puis, donc, il a eu un parcours assez compliqué avec le retour des Bourbons après l'abdication de Napoléon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un ressenti contre Louis XVIII et Charles X. J'ai jamais vraiment approfondi cette question. Mmh. Et il a préféré prendre un Orléans, donc comme futur roi. Mais c'était en fait un idéaliste, Lafayette. Donc, il n'était jamais satisfait de ce qui se passait en France. Il n'était jamais satisfait de la Révolution, où il s'est senti trahi par les Jacobins, pour lequel il a combattu. Mmh. Et puis, c'était un idéaliste. D'ailleurs, à la Grange, il recevait beaucoup de monde sous Napoléon. Et Adrienne, des gens lui disaient « Mais vous êtes républicain, vous êtes royaliste ?» Et il répondait pas. Et Adrienne ouais. a eu ce bon mot, elle a dit « Moi je sais ce que vous êtes ni royaliste, ni républicain, vous êtes faillettiste. » C'est-à-dire vous êtes un peu vous-même. Ouais. Donc elle avait très bien trouvé.
Elle avait très très bien trouvé. Voilà. Et votre conclusion à vous, Jean-Mathieu Robine, peut-être aussi sur cette amitié franco-américaine. Aujourd'hui, c'est un peu nos meilleurs ennemis, parce que bon, on a quand même toute notre industrie, beaucoup de choses qui partent à l'étranger. On sent pas beaucoup de reconnaissance, peut-être dans le peuple américain à travers les associations, mais aujourd'hui, le fait est que la France devrait être peut-être plus respectée de nos petits frères américains qui sont quand même très jeunes, qui sont encore dans la période d'adolescence et voilà, je suis un peu étonné. Voilà.
Il faut distinguer le long terme du court terme politique. Il y a eu des...
Vous avez quelques secondes.
D'autres moments dans l'histoire franco-américaine où les relations étaient compliquées, mais on s'entend toujours, on se réconcilie toujours à la fin. Ce n'est pas un hasard. La France et les États-Unis sont un peu comme deux états messie de la liberté.
Eh ben merci Jean-Mathieu Robine, généalogiste, membre des Fils de la Révolution américaine. On peut trouver sur Internet. Si vous êtes des fils, des hommes descendants de combattants
ou des filles de la
liberté, de l'indépendance américaine, vous pouvez adhérer à l'association. Merci Gilbert Puget de Lafayette qui représentait votre ancêtre aujourd'hui. Et allez voir l'exposition, chers auditeurs, et à dans 4 semaines. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Salsa Bertin, émission préenregistrée les 6 et 7 mai 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 9 mai, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.